Il y a des textes bibliques, des passages de la Bible qui sont plus connus que d'autres. C'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Ainsi, beaucoup, même en dehors de l'Église, ont entendu parler des 10 commandements, du psaume 23 peut-être, du commandement à aimer son prochain, du verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, et j'en passe. Et parmi ces textes connus, parmi ces textes connus de beaucoup, il y a aussi les béatitudes. Généralement, quand on les connaît, on aime les béatitudes. Comment ne pas aimer des paroles qui parlent de bonheur, qui semblent donner la recette du bonheur? Pourtant, quand on y regarde de plus près, on peut être assez vite déstabilisé et se rendre compte que ce n'est peut-être pas si simple que ça. Pourquoi ? Parce que ce que disent les béatitudes est paradoxal et semble au mieux décalé, voire utopique. C'est ainsi que les béatitudes parlent, par exemple, de pauvres qui sont riches, d'affligés qui sont heureux, de conquérants non agressifs, de bienfaiteurs qui s'enrichissent, de perdants qui finissent par gagner, et j'en passe. Avouez qu'il y a de quoi être surpris. Ce matin, au début de cette nouvelle année scolaire, j'aimerais commencer avec vous une nouvelle série de prédications, et vous l'avez compris, sur les béatitudes de Jésus. Et je précise de Jésus parce que ce ne sont pas les seules béatitudes que l'on trouve dans la Bible, il y en a un certain nombre dans l'Ancien Testament, dans les psaumes et dans les proverbes en particulier, mais pas que, et puis aussi quelques autres livres du Nouveau Testament. Si vous vous êtes déjà un peu penché sur le sujet, vous savez qu'il y a deux évangiles qui nous rapportent les béatitudes de Jésus, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Et dans cette série que je vous propose, nous allons nous focaliser sur celle de l'évangile de Matthieu parce que ce sont les plus nombreuses. Matthieu nous en rapporte 8 alors que Luc ne nous en rapporte que 4. Alors je vous invite à lire ou à suivre la lecture avec moi de ces 8 béatitudes que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 5. Et je lis les versets 1 à 12 et je le fais dans la traduction de la Bible dite à la Colombe. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Pour bien comprendre ce que sont les béatitudes du Sermon sur la montagne, dont elles sont l'introduction, Il nous faut tout d'abord bien comprendre à qui s'adresse Jésus. Je relis les deux premiers versets de ce chapitre 5. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. » Que nous font comprendre ces deux versets ? Ils nous font comprendre qu'il y a deux auditoires au sermon sur la montagne. Premièrement, la foule. Voyant la foule, lisons-nous. Une foule qui suit Jésus depuis plusieurs jours, qui le suit à cause de sa renommée, à cause des nombreux miracles qu'il a accomplis pour elle. C'est ce que nous lisons dans les versets qui précèdent, à la fin du chapitre 4. Je lis Matthieu 4, versets 23 et 25 à 25. « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. » Il y a donc la foule, et puis il y a les disciples. Premièrement, les 12. Les 12 que Jésus vient tout juste d'appeler à sa suite. Mais il y a aussi une foule de disciples. C'est l'expression que Luc utilise dans son texte parallèle, dans son évangile. C'est ainsi qu'il nous présente les choses, avec une foule de disciples. Si la foule est bien présente, c'est donc en premier à ses disciples que Jésus adresse les enseignements du sermon sur la montagne, dont les béatitudes. C'est ce que nous lisons dans ces deux premiers versets. Ce n'est donc pas la foule qui est concernée par les béatitudes et la suite du sermon, mais les disciples. Ce qui n'empêche pas pourtant, bien évidemment, la foule d'entendre ce que Jésus va dire. Et sa réaction à la fin du sermon sur la montagne en témoigne. Tout à la fin, au chapitre 7, versets 28 et 29, nous lisons « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. » Les destinataires de l'enseignement du sermon sur la montagne sont donc avant tout les disciples de Jésus. Matthieu le précise, comme nous venons de le voir, mais nous pouvons aussi le comprendre par le contenu des paroles de Jésus dans ce sermon sur la montagne. En effet, quel est le contenu de ce discours de Jésus ? De quoi y parle Jésus ? Dans le sermon sur la montagne, Jésus énonce les principes de la vie dans le royaume des cieux, appelé aussi ailleurs le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, qu'il est venu instaurer. Les principes donc qui doivent gouverner ce nouvel ordre spirituel que Jésus est venu établir. Ce règne de Dieu est pour l'heure une réalité spirituelle encore bien imparfaite, qui correspond à la vie des disciples en cours de transformation, qui correspond à la vie de l'Église, comprise comme l'ensemble de celles et ceux dont Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Ce règne de Dieu, introduit par Jésus, commence ici sur la terre, dans le cœur des croyants, et il trouvera sa plénitude dans la vie éternelle, après le retour de Jésus. Notons que les principes dont nous parlons sont pour la plupart des principes exigeants, voire très exigeants. Si vous n'avez pas relu le sermon sur la montagne depuis longtemps, Faites-le cette semaine et vous verrez que c'est vraiment très exigeant. Ce sont des principes qui pourraient nous écraser, tant la barre est haute pour nous qui sommes encore dans la chair. Et c'est ici que le disciple de Jésus doit bien comprendre que ces principes, qui concernent aussi les béatitudes, sont une direction à prendre, sont un objectif à viser dans la compréhension de son incapacité à y arriver par lui-même, de la nécessité d'y travailler par l'Esprit de Dieu et de l'indispensable grâce de Dieu qui lui est toujours offerte quand la cible est ratée. Comme l'écrit Louis Schweitzer dans le petit livre qu'il a écrit sur les béatitudes, il dit ceci, « Tout cet enseignement, donc l'enseignement du sermon sur la montagne, n'est compréhensible que comme une direction, un élan, une orientation de la vie qui ne trouve sens et force que dans la grâce et la certitude de l'accueil de Dieu. On ne peut en effet dissocier dans l'enseignement de Jésus la grâce et l'exigence. » Alors pourquoi est-ce que je précise tout cela ? Je précise tout cela parce que certains ont voulu faire du sermon sur la montagne, dont font partie les béatitudes, ce qu'il n'est pas, à savoir le manifeste des principes de la vie en société. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Comme l'écrit un commentateur dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu, il s'agit de RT France, le sermon sur la montagne n'a pas de prétention à présenter une éthique pour tous les hommes. Sa préoccupation n'est pas l'éthique en général, mais celle de la vie de disciples du royaume des cieux. Ce n'est donc pas un modèle pour la société. Certains même ont voulu imposer par la force ces principes du règne de Dieu, ce qui est une aberration totale, et ce qui n'est bien évidemment pas la visée de Jésus dans notre texte. Si la foule est présente, c'est bien à ses disciples, à ceux qui l'ont choisi pour maître, que Jésus s'adresse, et non pas à l'humanité tout entière, et il leur dit comment il convient de vivre dans son royaume. Prenons pour illustrer ce que nous venons de dire l'exemple de la première béatitude. Et je cite à nouveau Louis Schweitzer qui dit ceci. Jésus ne dit pas « heureux les pauvres en général », comme si la misère était une sorte de bonheur. Pas même ceux qui s'appliqueraient à une pauvreté volontaire qui serait en elle-même méritoire. Il dit « heureux ceux qui ont accepté pour le suivre » d'abandonner les sécurités de la vie, ceux qui ont préféré le royaume aux biens et aux richesses de ce monde. Oui, ce sont bien les disciples, ou ceux qui veulent le devenir, qui sont concernés par le sermon sur la montagne et par les béatitudes. Revenons maintenant aux béatitudes qui introduisent donc ce sermon sur la montagne. Comment les comprendre dans leur ensemble. À la suite de ce que nous venons de dire, les béatitudes vont souligner ce que doit être l'attitude du vrai disciple de Jésus dans le royaume des cieux. Si nous posions la question « à quoi doit ressembler un chrétien ? À quoi doit ressembler un disciple de Jésus ? À quoi doit ressembler un membre du royaume des cieux ?» la réponse pourrait être « au portrait dressé par les huit béatitudes de Matthieu 5. Ainsi, les béatitudes sont en quelque sorte le portrait du membre du royaume de Dieu, avec ses caractéristiques et avec ses privilèges. Un portrait fait de huit coups de pinceau, un pour chaque béatitude. Notons, comme déjà souligné, que c'est un portrait idéal vers lequel il faut tendre, vers lequel il faut tendre parce que notre nature pécheresse est un obstacle de taille sur ce chemin-là. C'est pourquoi chercher à vivre les béatitudes doit toujours se faire dans la compréhension de la grâce de Dieu qui relève toujours le pécheur repentant. Ceci dit, il nous faut remarquer ici qu'avant d'être un portrait du chrétien et de ce vers quoi il doit tendre, les béatitudes sont un portrait du Christ. Encore Louis Schweitzer, qui m'a beaucoup inspiré dans la préparation de ce message et qui écrit ceci, « Nous avons sans doute là le plus beau portrait possible du Christ, l'icône biblique la plus précise sur Jésus. Il est en effet à la perfection, celui à qui appartient le royaume, celui qui voit Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, etc. » Le disciple n'est appelé qu'à suivre son maître, qu'à faire comme lui, qu'à devenir petit à petit comme lui. Les béatitudes dressent donc pour nous le tableau de ce que nous sommes et en même temps de ce que nous sommes appelés à devenir, l'idéal vers lequel nous devons tendre, cet idéal étant le Christ lui-même. Et c'est bien pour cette raison que la barre est haute, et certainement pas pour nous culpabiliser. Les béatitudes commencent toutes, ça ne vous a pas échappé, par le mot « heureux ». Et elles nous apparaissent donc comme des affirmations de bonheur. Mais de quel bonheur parlons-nous ? En fait, il ne s'agit pas premièrement de l'état mental du bonheur, de ce que les personnes, vous et moi, ressentent quand elles disent qu'elles sont heureuses. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit ici de ce que Dieu pense de ses enfants, des disciples de Jésus. Ils sont heureux aux yeux de Dieu, car ils font partie du royaume, car ils sont au bénéfice de sa grâce, car ils sont ses enfants, car ils sont bénis par lui. De quelle bénédiction parlons-nous ? Vous le savez, vous le voyez, les bénédictions ne sont pas que des affirmations de bonheur, puisqu'il y a attaché à chaque affirmation une promesse. Une promesse introduite par la préposition « car ». Ainsi, il est promis aux disciples de Jésus, aux membres du royaume de Dieu, l'appartenance à ce royaume, la consolation, l'héritage de la terre, la satiété de la justice, la miséricorde, voir Dieu, être appelé fils de Dieu et une grande récompense dans les cieux. Et la question qui s'impose ensuite à nous est celle-ci, à quel moment pouvons-nous légitimement attendre l'accomplissement de ces choses qui sont promises ici ? Autrement dit, est-ce pour aujourd'hui, pour ici-bas, pour maintenant, ou bien est-ce pour l'éternité ? Pour répondre à cette question, il n'est pas inutile de nous pencher sur les temps, un peu de grammaire, un peu de conjugaison, sur les temps qui sont employés dans les béatitudes. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que cela nous apprend ? Nous en trouvons deux au présent et six au futur. Cela nous apprend au moins une chose, c'est que le meilleur est à venir. S'il y a un accomplissement pour aujourd'hui, celui-ci, à l'évidence, n'est que partiel. L'accomplissement parfait et complet des béatitudes se fera lors de l'établissement parfait et complet du règne de Dieu. Prenons l'exemple du verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Alors oui, Dieu nous console déjà ici-bas, mais toutes les consolations du Seigneur ici-bas ne sont ni complètes, ni parfaites, ni définitives. La consolation de Dieu est toujours partielle, est toujours mêlée aux souffrances qui demeurent, aux difficultés nouvelles qui vont survenir, à la réalité du monde déchu dans lequel nous vivons, à notre propre nature pécheresse. Mais comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, le jour viendra après le retour du Seigneur où Dieu séchera définitivement et parfaitement et pour toujours donc les larmes de ses enfants. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. » Oui, dans ce domaine de la souffrance et dans tous les autres domaines, le meilleur est à venir quand nous serons parfaitement comblés de toutes les bénédictions de Dieu. Alors tout ce qui est dit dans les béatitudes, tout ce qui est promis dans les béatitudes se réalisera entièrement et parfaitement. Si l'accomplissement des promesses liées aux béatitudes est essentiellement futur, il y a néanmoins quelque chose qui est promis pour maintenant. Ce sont les deux temps au présent du verset 3 et du verset 10 qui ont la même promesse, car le royaume des cieux est à eux. Et les béatitudes, vous le constatez, sont comme encadrées par ces deux temps au présent, par cette réalité. Oui, l'appartenance au royaume est déjà une réalité, une certitude ici-bas. Le disciple de Jésus possède l'assurance de son salut. J'aimerais, pour conclure ce message, faire encore trois remarques. Trois remarques d'ordre général. Premièrement, j'aimerais dire que le message des béatitudes concerne tous les chrétiens. J'enfonce une porte ouverte, une autre, sans doute. Il concerne toutes celles et ceux qui se sont mis à la suite du Christ. Vous vous en doutez, mais je le dis parce que ça me paraît important, il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Une catégorie de chrétiens qui chercherait à vivre, à ressembler à ce portrait des béatitudes, et puis les autres. En fait, tous les chrétiens doivent rechercher cela, doivent chercher à ressembler à Christ, doivent chercher à vivre les béatitudes. Et quand nous n'y arrivons pas, cela a été beaucoup dit ce matin, nous avons l'assurance du pardon de Dieu qui est toujours offert à celle ou celui qui se repent. Nous avons l'assurance de la grâce de Dieu. Notons bien que si tous les chrétiens doivent chercher à vivre les béatitudes, le faire ne fait pas de nous des super chrétiens, des super héros de la foi, parce que vivre les béatitudes, c'est finalement la vie chrétienne normale. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle-là. Voilà le défi qui nous est proposé. C'est à Jésus-Christ que nous devons chercher de ressembler. La deuxième remarque, c'est que si tous les chrétiens sont concernés par les béatitudes, chaque chrétien est concerné par chaque béatitude. Il ne faudrait pas ici s'imaginer qu'il y a un chrétien qui est pauvre en esprit, et puis il y en a un autre là qui est miséricordieux, et puis un autre là-bas au fond qui est affamé et assoiffé de justice. Et puis si on met tout le monde ensemble, on finit par avoir toutes les qualités, tout ce que les béatitudes nous présentent. Il ne faudrait donc pas imaginer que ce qui nous est présenté ici dans les béatitudes est à la carte en fonction de mes envies, de mes désirs, de mes capacités peut-être, de ma personnalité sans doute. Non, Chacune des 8 caractéristiques des béatitudes doivent être vraies pour chaque chrétien. En tout cas, chaque chrétien devrait s'engager dans cette direction-là, dans ces 8 directions-là. Ces caractéristiques de la vie de disciple présentées dans les béatitudes forment un tout qui est homogène, un tout qui est indissociable. Nous devons les rechercher toutes, sans en privilégier une plus qu'une autre. Troisième et dernière remarque. Vivre les béatitudes, en d'autres mots, vivre en chrétien, c'est vivre à contre-courant. C'est très souvent prendre le contre-pied du monde et de ses valeurs. Et les béatitudes, je trouve, en particulier nous aident à prendre la mesure de ce contre-courant que nous sommes appelés à vivre. Elles nous aident à en prendre bien conscience. C'est ce que Danny Amo, dans un autre petit livre sur les béatitudes, écrit. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Dans notre culture occidentale, le secret du bonheur et de la réussite personnelle se mesure en termes de richesse matérielle, niveau intellectuel, position sociale, importance de la situation professionnelle, popularité, etc. Dans le royaume de Dieu, les critères sont rigoureusement différents, sont appelés à jouer un rôle décisif dans le royaume de Dieu, ceux dont le monde ne fait aucun cas et qu'il ignore royalement. Non pas les riches, mais les pauvres, ni les parvenus, mais les opprimés et les persécutés, ni les battants qui font la une des médias, mais ceux qui ont faim et soif de valeur, qui ne sont pas cotés en bourse, et qui valent pourtant plus que tout l'or en barre de la planète. Décidément, au royaume de Dieu, toutes nos valeurs humaines se trouvent renversées. La réalité dépasse la fiction. Les faibles, selon le monde, deviennent forts, et les fous, selon le monde, sont des sages aux yeux de Dieu. Chers amis, intuitivement, et par bien des enseignements de la parole, le chrétien sait au fond de lui-même que sa marche ici-bas doit se faire à contre-courant de l'esprit du monde. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir comment. Et les béatitudes nous aident dans ce domaine et nous donnent des pistes très concrètes pour y parvenir. Et c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines semaines. Elle nous aide finalement, si nous sommes des chrétiens, à devenir nous-mêmes, à devenir ce que nous sommes en Christ. Alors oui, c'est un chemin exigeant, mais c'est un chemin de plénitude. Un chemin de plénitude est quand Dieu nous regarde marcher sur ce chemin. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit « heureux ». Ils sont heureux, il est heureux, elle est heureuse. Oui, nous sommes heureux aux yeux de Dieu si nous faisons ces choses, parce qu'elles sont les marques de femmes, des femmes et des hommes que Dieu a appelés en Christ à entrer pour y vivre dans son royaume. Alors ma prière pour cette nouvelle série, c'est qu'elle nous aide chacun à prendre un peu plus et un peu mieux aussi la mesure de ce beau et de cet exigeant chemin tracé par les béatitudes, qui est le chemin où Dieu désire que nous marchions, qui est le chemin où Dieu désire que nous grandissions en lui, qui est le chemin où Dieu désire que nous grandissions à l'image de son Fils, qui est le chemin où Dieu désire que nous grandissions pour sa gloire. Amen.